Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec l'équipe que vous connaissez, Perrine Suquet, Margot Agnès. Aujourd'hui, c'est Philippe Duval qui est aux manettes de notre émission. Et elle a une, effectivement, un document exceptionnel en exclusivité pour l'heure du crime sur RTL. Christian Didier, celui qui a assassiné de 5 balles de revolver le 8 juin 1993, René Bousquet, qui était en attente de son procès pour crime contre l'humanité. Et Christian Didier parle, vous allez l'entendre, il s'est longuement exprimé au micro de Margot Agnès pour l'heure du crime. Il revient sur les raisons qui l'ont poussé à tuer cet homme, et en même temps, il n'exprime pas de regret, si je puis dire, mais vous allez l'entendre, il explique comment il a vécu cela, et Margot Agnès nous dira dans un instant à quoi ressemble aujourd'hui cet homme de 70 ans après évidemment cet événement qui a fait parler de lui un peu partout à travers le monde. On en parlera aussi avec Philippe Bilger. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, tout simplement parce que c'est une affaire qui vous a à la fois touché professionnellement. Vous étiez l'avocat général au moment du procès. Voilà. Et puis c'est vrai que il y avait le procès de cet homme qui avait tué, donc qui s'était fait justice lui-même, et en même temps, il y avait un contexte politique qui était extrêmement sensible pour la France.
Absolument. Durant le procès, on a à la fois parlé, évidemment, des modalités d'exécution de l'assassinat et de l'inspiration de Christian Didier, mais un certain nombre de témoins sont venus éclairer la cour et les jurés sur les embûches, les lenteurs, peut-être les abstentions, dont on accablait un peu rapidement le président Mitterrand. Donc, on a cherché à aborder toutes les facettes de l'affaire.
Et on disait que le président Mitterrand avait fait tout ce qu'il fallait pour retarder au maximum la tenue de ce procès pour crime contre l'humanité. Et Christian Didier pensait certainement de son côté que ce procès n'ayant jamais lieu, eh bien lui-même allait faire justice. Alors on va reparler de tout ça et on va parler évidemment de la longue conversation que Margot Agnès a eue avec lui il y a quelques heures. Mais d'abord, un document RTL. Il faut dire que l'affaire, évidemment, a fait la une de l'actualité en France, mais dans le monde entier, il y a des images qui sont passées en boucle pendant quelques jours. Pourquoi ? Parce qu'après avoir tué René Bousquet, Christian Didier était rentré à son hôtel, en Seine-Saint-Denis, l'hôtel des Lilas, et il avait convoqué des journalistes pour une conférence de presse où il expliquait son geste quelques minutes, finalement, quelques dizaines de minutes après avoir assassiné Bousquet. Écoutez.
J'ai essayé de flinguer Barbie en 87, je l'ai raté. Mais j'ai toujours gardé une animosité profonde pour les nazis. Et puis, j'arrivais pas, j'ai mis 6 mois à me décider, parce que c'est dur de tuer quelqu'un, je vous assure, moi je suis pas un assassin. C'est dur de tuer quelqu'un, mais j'y suis arrivé. Parce que, à un moment donné, j'ai eu comme une révélation, j'ai eu une prise de conscience, et c'est ce qui m'a donné le courage d'aller jusqu'au bout, en me disant, tu vois, si tu fais ça, puisqu'on ne t'écoute pas à la presse, ce que je veux vous lire, n'écoute pas à cette chose, et que c'est de la plus grande importance, eh bien tu vas faire le nécessaire, tu vas faire un geste, au moins un geste qui soit honorable, parce que je considère que d'éliminer un monstre comme ça, ça ne peut être qu'honorable, c'est la victoire du bien sur le mal, et tu vas passer ton message. Ceci dit, je demande à l'Éternel qu'il pardonne à celui que j'ai tué ce matin, qu'il me pardonne aussi mon geste, et je m'en remets, ceci dit, à la justice.
Procès ensuite, on va y revenir très longuement avec vous, Philippe Bilger. 10 ans de réclusion, on peut s'interroger, on vous posera la question, puisque vos réquisitions étaient entre 10 et 12 ans. Et on pensait qu'il risquait, en tout cas, pénalement, 25 ans de prison. Et puis maintenant, les explications que Christian Didier a données, acceptant de revenir sur ce moment, évidemment, très fort de sa vie. Bonjour, Margot Agnès.
Bonjour.
Alors, à l'époque, en 1993, René Bousquet devait avoir à peine 50 ans, 49 ans, je crois. C'est un homme de 70 ans que vous avez rencontré dans sa ville natale.
C'est ça, à Saint-Dié. Donc, un homme de 70 ans qui est aujourd'hui quand même malade. Il a des problèmes aux poumons, donc il a un peu de mal à s'exprimer, mais quand il s'exprime, il a toujours cette fougue qu'on a pu voir il y a 20 ans. Mmh. Il revient très précisément sur son assassinat, sur les détails, donc avec les gestes, avec les bruits, etc. Ouais. Et donc, il vit dans cette ville, dans l'appartement qu'occupait sa mère, qui est aujourd'hui décédée. Et il continue à écrire beaucoup, à écrire des poèmes, à écrire ses mémoires aussi, et à écrire beaucoup de bafouilles, comme il dit. Donc il envoie des lettres à Monsieur Bulger.
Oui, d'un savoir, on en reparlera. Oui, voilà. Vous recevez beaucoup de courriers. Parce qu'il s'est établi un lien entre vous.
D'emblée.
Ouais. Et c'est un homme, en tout cas, disons-le, on l'entendra tout à l'heure, qui ne regrette rien.
Non, il ne regrette rien. Clairement. Il a regretté, donc, un petit peu après avoir assassiné René Bousquet, notamment au moment de son procès, mais aujourd'hui, quand il y repense, quand il y réfléchit, il est clair, il ne regrette rien, et si c'était à refaire, il le referait.
Alors, nous allons faire une première pause dans cette émission. Évidemment, si vous avez des questions, des réactions, des témoignages à propos de cette affaire énorme, vous pouvez utiliser le 3210 pour les coups de téléphone, c'est le standard téléphonique d'RTL, ou alors nous envoyer des courriels par rtl.fr. Et dans un instant, on va entendre donc ce document, René Bousquet, qui dans un... Christian Didier, l'assassin de René Bousquet, Christian Didier, qui va revenir sur ce fameux jour du 8 juin 1993.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Et nous allons entendre maintenant la voix de Christian Didier, qui a raconté à Margot Agnès pour l'heure du crime comment s'était déroulée la fameuse matinée du 8 juin 1993. 8 juin 1993, c'est le jour où il a assassiné René Bousquet.
J'ai travaillé bien avant pour avoir l'esprit clair, pour tout calculer. J'ai pris le métro, je suis descendu, je ne sais pas si la station, je suis arrivé et j'ai sonné. C'était marqué RB, la platine. Hein. C'est pas marqué René Bousquet, hein, faut pas être con. Hein. J'ai dit, voilà, monsieur, bonjour. Je suis un envoyé ministre de l'Intérieur. J'ai des papiers à faire signer à monsieur Bousquet. Parce que, comme vous le savez, un procès est en cours, tout ça. Et le mec, il me dit, monsieur Bousquet ne reçoit personne. Vous mettez ça chez la concierge. Alors là, j'ai dit, écoute, c'est là que ça se joue. Et je lui ai répliqué du tac au tac, ce sont des papiers du ministère de l'Intérieur qui doit signer en présence de moi et pas d'un tiers, en l'occurrence la concierge. Et là, l'autre espèce d'enfoiré, il prend le bigot, le téléphone, et puis il me dit, je suis aussi un peu monté. Je me suis dit, mec, il va falloir jouer. Ça va être un des moments difficiles de ma vie, quand même. Parce que même un ordure, flinguer un mec, c'est jamais marrant, hein. Surtout qu'il a fallu 4 balles pour l'abattre. Il avait la peau dure, son culé, là. Alors, bon, je monte là-haut. Il ouvre en même temps que je ouvre la porte d'ascenseur. Je monte les papiers, voilà, ministre intérieur, monsieur intérieur, puis je sais plus quoi. Et regardez, il est rentré. Il y avait un écritoire sur le côté gauche de la porte en entrant. Et il s'assoit sur l'écritoire. Il me dit, je vous écoute. Je dis, voilà, je sors des... Toujours des faux papiers. Il regarde, il lit, puis il se retourne vers moi, puis il me dit « Mais qu'est-ce que je dois faire dans tout ça ?» Ah ben, je dis « Je vais vous le dire. » Parce que là, j'étais hyper concentré. Il y a des situations où vous pensez à rien d'autre que ce que la force de l'instant présent. C'est Malraux qui disait « L'action, geste de domination et de liberté face au danger à la mort. » Cette phrase, ben, je l'avais lue peut-être 1 ou 2 ans avant, mais elle était restée imprimée dans mon esprit. Je me sentais animé par cette phrase. Donc, je reviens. Alors, je lui dis, je vais vous le dire, je sors le flingue. Et il me regarde, il se met debout. Le dernier mot qu'il a prononcé de sa vie, il m'a dit « salaud » avant que je tire. Il a dû se dire, c'est quelqu'un, je ne sais pas qui, quoi, qu'est-ce, mais lui, il savait mieux que moi, qui l'envoie pour me niquer. Bon, alors je commence à tirer une fois. Et c'est incroyable, cette histoire, parce que je tirais une fois. Il venait sur moi. J'avais un revolver qu'il fallait que je recharge à chaque fois. Il essayait chaque fois de m'arracher le revolver comme ça. Et il venait sur moi, c'était incroyable ça. Et je raccrochais, bam, et je tirais. Et je raccrochais, bam, et je tirais. Et la troisième balle, je lui avais touché la base du cœur. Et là, il était encore debout, mais il commençait à chanceler. Et là, je me suis dit, je ne vais pas passer le réveillon à flinguer. Et là, je me suis approché de lui. J'ai pris le flingue, je lui ai collé sur la tempe. Et bam, je lui ai sauté la cervelle. Et là, boum, il est tombé, terminé. Et j'ai enfin respiré. Putain, j'ai réussi à en finir avec cette énergie. Mais là, imaginez que ça faisait 6 mois que j'étais sur des charbons ardents. Vous pouvez pas vous imaginer. C'est pire qu'un accouchement, hein.
Philippe Bilger, vous retrouvez l'homme que vous avez
pas du tout.
Connu dans le boxe en 95?
Pas du tout. Je comprends bien que lors d'une comparution en cour d'assises, on ne peut pas avoir le même ton ni adopter le même genre de propos. Mais je suis surpris par le ton grossier, infiniment vulgaire qu'il utilise là, alors que devant la cour d'assises, il assumait son crime, reconnaissait sa responsabilité, mais évidemment n'avait pas ses propos et ses tournures qui sont surprenantes dans sa bouche.
Quelle que soit la personnalité de la victime,
niquer l'enculé, il n'aurait jamais dit ça, il ne le disait pas. Ouais. Alors je peux comprendre qu'au fil des années, il ait reconstruit avec une sorte d'assurance le crime qu'il avait commis à l'époque en n'affichant plus le moindre regret, c'est probablement le cas.
Ouais. Quand vous avez préparé ce procès, c'était un procès important puisque, on l'a dit tout à l'heure, il y avait le geste, le crime, une victime, un assassinat, et en même parce que c'était programmé, prémédité.
Absolument.
Et puis en même temps, c'était aussi au fil des témoignages des gens qui sont exprimés au cours du procès, un retour sur les années noires de Vichy. C'est vrai que René Bousquet avait été le chef de la police de Vichy. Il avait organisé notamment la rafle du Vélodrome. Mais il avait aussi présidé à l'ouverture de camps comme Drancy, Pithiviers, etc. Comment vous avez vous-même, alors, en tant qu'avocat général, abordé ce procès?
Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait fait en sorte de faire venir un certain nombre de témoins qui éclaireraient et la personnalité de Didier et le contexte historique et politique dans lequel ce procès finalement a pu avoir lieu. D'autre part, pour Didier, c'était relativement simple pour un avocat général sur le plan de l'articulation intellectuelle. Il y avait en effet une extrême confusion dans l'inspiration, c'était clair de sa part, et une maîtrise absolue dans l'exécution, même si René Bousquet, avec son homme de service asiatique, n'avait pas pris des précautions considérables pour interdire l'irruption dans son appartement.
Alors, on va entendre à nouveau donc Christian Didier. On disait que c'est un assassinat, c'est-à-dire un crime, un meurtre prémédité, prémédité et soigneusement préparé le jour même, mais depuis longtemps, il le dit lui-même, depuis au moins 6 mois. Et Margot Agnès lui a demandé comment lui était venue précisément l'idée de tuer René Bousquet. Écoutez sa réponse.
Dans la télévision, et il y avait Patrick Poivre d'Arvor qui présentait le journal. Et puis, à un moment donné, il a évoqué l'affaire Bousquet, comme quoi cet individu allait être, entre guillemets, jugé. Le peu qu'il a dit, ça m'a laissé un impact sur l'instant qui s'est pas effacé comme ça. J'avais déjà essayé de flinguer Barbie, oui, c'était en 87 à la prison de Lyon. Et je m'étais fait passer pour un faux urologue, je savais qu'il avait été opéré du cancer de la prostate, et je voulais m'introduire comme ça, avec des faux papiers d'urologue. Et à la dernière minute, j'ai dit, bon, si je réussis à accéder à sa cellule, je le tuerai pas, mais je lui mettrai une balle dans chaque genou et je lui dirai maintenant, t'as le bonjour Jean Moulin. Je me suis fait arrêter, je me suis fait serrer au portique de détection électronique, ils sont tout de suite vus, que j'avais du métal. J'ai eu de la chance parce que j'ai fait que 5 mois de prison. La Fion, qui était mon avocat de l'époque, il m'a dit, écoute, je vais essayer d'arranger le coup. Au lieu de faire passer ça pour tentative d'homicide, on dira, bon, comme t'as fait pas mal de piratage sur les antennes, on dira que c'est un côté olé olé, que t'as voulu te faire remarquer comme ça, ça passera le chef d'accusation, grave trouble à l'ordre public. Et j'ai grandi du sort. J'étais à la prison de Montluc. Et l'infirmière, qui était très gentille, elle m'a dit, vous savez, monsieur Didier, que la cellule où vous êtes, c'est la cellule où était enfermé Jean Moulin pendant qu'il était torturé par Barbie. J'ai dit, c'est incroyable, cette histoire. Ça m'avait beaucoup impressionné, ça. Quand j'ai commencé à décider, à organiser mon plan pour les flinguer l'autre enfoiré de Bousquet, ça m'avait conforté dans l'idée que fallait pas que je le rate celui-là et que je ne mettrais pas une balle dans chaque genou, mais que je ferais tout pour le flinguer. Alors, bien entendu, comme je suis quand même quelqu'un qui gamberge un peu, j'ai été me balader plusieurs fois. Alors, je cherchais, je gambergeais, je me disais, si j'ai pas l'adresse, je pourrais pas le flinguer. Et un jour, je me dis, merde, je téléphone à 2 journaux. Je leur dis, voilà, je suis un journaliste indépendant et je voudrais faire un interview sur Bousquet, mais je n'ai pas l'adresse. Le Parisien me dit, attends, on va chercher. Elle, j'attends. Elle revient, elle me dit, oh monsieur, on l'a cherché, on l'a pas. Je dis, c'est pas grave, merci, au revoir. Je raccroche, je décroche, et là j'appelle Libération. Elle se pose la même question. Elle me dit, attendez monsieur, je vais voir. J'attends, elle rapplique, elle me dit, voilà, c'est à telle adresse. Je dis, putain, je l'ai. Ah, j'étais content, bordel de merde que j'étais content. Vous pouvez pas imaginer. Parce que là, j'ai dit, je peux mener à bien ma trajectoire. Alors là, j'ai commencé à faire des repérages. Donc je me suis pointé pour voir d'abord s'il n'y avait pas de sous-marin. Je voulais savoir où j'allais foutre les pinceaux. Et je matais aussi des fois s'il y avait des gardes-corps. Donc je matais l'entrée et les sorties de l'immeuble.
Est-ce que pendant les 6 mois de préparation, vous avez pensé à reculer à certains moments, à ne pas tuer René Bousquet?
2-3 fois. Pas le tuer, si, j'avais envie de le tuer. Mais 2-3 fois, je me suis dit, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'était un calvaire, hein. Je suis sûr que c'était un calvaire, hein. Lui, il a peut-être passé un moment difficile vers la fin. Pas si difficile que ça, parce que je l'ai vu crever sous mes yeux. Et je vais vous dire, il a pas tellement souffert. Il a même peut-être même pas souffert du tout. Mais moi, j'ai dérouillé, hein, pendant 6 mois.
Donc Philippe Bilger, la prison Montluc à Lyon, quand Barbier était incarcéré, il avait pensé également à assassiner Paul Touvier. Ah. Et puis donc on a compris comment il est arrivé à Bousquet.
Absolument. Ce qu'il y a d'intéressant dans la personnalité de Didier par rapport, par exemple, à celle d'un Maxime Brunnery plus tard.
Brunnery, c'est celui qui a tenté d'assassiner Jacques Chirac avec, sur la place de l'Étoile avec un fusil.
Ils ont en commun, c'est clair, un désir de médiatisation. Mais ce qui est particulier chez Christian Didier, c'est qu'il prétend, et sans doute il est sincère, avoir voulu mêler ce désir de médiatisation au service de bonnes causes. Et finalement, c'est cela qui a d'intéressant, et les propos qu'il tient aujourd'hui correspondent un petit peu à ce qu'il a dit lors de son procès.
Et puisque vous évoquez le procès, on va entendre après une pause l'un des rares témoins, à décharge, hein, ouais. de René Bousquet, qui avait été cité par son avocat, qui était Arnaud Montebourg, voilà. Et maître Thierry Lévy, hein, c'était les deux avocats. Et cet homme s'appelle Joseph Weissmann, c'est un des rares rescapé de la rafle du Veldiv. Il était venu dire à la barre qu'il admirait plutôt le geste de Christian Didier. On va entendre ça dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
On va revenir dans un instant à ce document exclusif pour l'heure du crime qu'on vous propose aujourd'hui à travers la conversation que Margot Agnès a eue avec Christian Didier chez lui dans sa ville de Saint-Dié, où il revient donc sur cet événement évidemment dont tout le monde se souvient. On va évoquer tout de suite avec vous, Philippe Bilger, le procès, l'atmosphère de ce procès. Et avant tout, je voudrais qu'on entende un autre document qui a été enregistré il y a quelques jours. Au micro de Margot Agnès aussi, d'ailleurs, que vous travaillez pour cette émission spéciale. Il s'agit de monsieur Joseph Weissmann, donc qui est un des rares, comme je le disais tout à l'heure, rescapés de la rafle du Veldiv. Et il a été entendu au cours du procès comme témoin cité par la défense. Écoutez ce qu'il a dit avec le recul du temps, puisque l'enregistrement date de quelques jours à peine, ce qu'il a dit à Margot Agnès sur l'admiration personnelle qu'il avait exprimée par rapport au geste de l'accusé.
J'avais reçu chez moi un camarade de l'époque noire. Nous étions dans le même orphelinat après la libération. Et on était contents de se revoir, on a passé une bonne soirée, on s'est picolé un petit peu. On a décidé qu'on allait aller tuer René Bousquet. C'était un petit peu échauffé, quoi. 15 jours après, j'entends à la radio, René Bousquet a été assassiné ou de façon domicile. Et ma première réaction a été, le salaud, il l'a fait sans moi. Mais après, j'ai entendu que Christian Didier, etc. Et ma réaction a été un moment de bonheur. Je ne sais pas si je n'ai pas rebu encore un verre de champagne, parce que c'était alors que tous nos ennemis qui s'appelaient Xavier Vallin, qui s'appelaient Darquet de Pellepoix, tous ces gens-là n'ont pas été jugés, évidemment pas condamnés non plus. Je me disais, enfin, justice est rendue. Ce type qui a été notre pire ennemi, puisque c'est lui qui était à l'origine de la rafle du Veldiv, il a été descendu à domicile. Que celui qui l'a fait soit béni, bien que je ne crois pas en Dieu.
Et vous vouliez vraiment tuer René Bousquet?
Non, je ne l'aurais pas tué, madame. Je n'ai jamais tué personne, j'aurais été capable de le tuer. Mais si vous voulez, moralement, j'estimais que ça devait être fait.
Et donc vous avez témoigné ensuite au procès, vous aviez été contacté par Arnaud Montebourg, c'est ça ?
Par Monsieur Montebourg, qui m'avait, je dirais pas convoqué, mais qui m'avait demandé de venir à Paris. Il m'avait expliqué la chose et il m'a dit est-ce que vous accepteriez d'être témoin de la charge contre Bousquet ?
Comment s'est passé votre témoignage au procès de Christian Didier ?
Je ne sais pas trop ce que j'allais dire d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, moi je n'avais jamais rencontré René Bousquet. Il y avait d'ailleurs également convoqué Annette Muller, qui est une petite fille, je dis toujours une petite fille, parce que quand je l'ai connue, elle avait 13 ans, il y en a comme moi plus de 80 aujourd'hui, et qui déposait avec son frère Michel. Et quand j'étais appelé à la barre, le président du tribunal, c'était un certain monsieur Jacob, m'a demandé ce que j'avais à dire. Alors, avec un culot monstre que je ne me reconnaissais pas, je me suis tourné vers l'avocat général. Monsieur l'avocat général, je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir tué René Bousquet moi-même. Et je me suis tourné à ce moment-là vers Christian Didier, et j'ai dû lui dire quelque chose comme « Je vous remercie de l'avoir fait ». L'avocat général, évidemment, était très surpris, était choqué, m'a dit « Monsieur, j'espère surtout que vous ne pensez pas ce que vous dites ». Et j'ai répondu « Je le pense du plus profond de moi-même ». Après, je me suis mis à trembler. Pour un peu, j'aurais fait pipi dans ma culotte.
Comment vous avez réagi au verdict, à la condamnation de Christian Didier ?
Moi, je n'ai pas assisté. Après mon témoignage, je suis rentré chez moi au Mans. Et j'ai appris par les journaux. Moi, j'estime qu'on aurait dû l'acquitter et le décorer. Et puis, la manière dont il l'a fait, c'était admirable. Je peux vous dire que sincèrement, au fond de moi, je suis marié père de famille. Mais j'aurais voulu que ce soit moi qui fasse ça. C'était à moi de le faire, pas à lui. Aujourd'hui encore, je regrette que ce ne soit pas moi. Et d'ailleurs, j'avais dit à M. Montebourg, ça serait tellement plus facile pour vous si c'était moi qui l'avais fait.
Alors Philippe Bilger, vous vous souvenez de cette scène, je suppose.
Oui, pas dans le détail, mais évidemment, je suis tout à fait touché par ce que vient de rappeler ce parfait honnête homme. Je comprends la réaction presque d'allégresse qu'il a éprouvée lorsqu'il a appris la mort de René Bousquet. Je comprends bien que pour lui, l'humanité était délivrée d'un homme qui n'aurait pas dû y être. Pour le reste, évidemment, je continue à penser que l'état de droit doit dominer une forme de vengeance, mais encore une fois, je comprends tout ce qui vient d'être dit.
Alors, parlons des avocats de la défense, parce que comment ont-ils défendu Christian Didier ?
Alors justement, à partir du moment où Christian Didier, dans sa première phrase, a dit qu'il regrettait la mort de René Bousquet, ils ont abordé la problématique de manière différente. L'immense avocat qu'est Thierry Lévy est resté dans le registre politique qu'il voulait soutenir jusqu'au bout. Et l'avocat déjà plein d'avenir et talent qu'était Arnaud Montebourg, il l'a démontré par la suite, a tenté de faire une synthèse entre le procès politique et le procès plus ordinaire, en tenant compte évidemment des éléments de l'audience, de sorte que on a eu parfois l'impression d'une défense désaccordée, même si individuellement elle demeurait très talentueuse, voire davantage.
Oui, parce qu'il faut préciser à ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être pas de cette génération, donc qui savent pas trop bien qui est Bousquet, il était inculpé de crimes contre l'humanité à la demande dès 1989 de l'association des fils et filles de déportés juifs de France, c'est l'association de Serge Klarsfeld, et il faut dire que il se battait pour une chose, c'est que en 1949, après la guerre, René Bousquet avait été, pendant 3 jours, il y avait eu un procès de 3 jours sur ses activités pendant la guerre, et qu'il avait été acquitté à l'époque. Absolument. Il avait eu une peine de principe, mais même cette peine de principe avait été levée, je crois que c'était l'indignité nationale ou je ne sais quoi, mais qui a été levée au titre des actes répétés de résistance à l'occupant. Donc, ce qui fait qu'un certain nombre de gens qui savaient qu'il était aussi l'organisateur de la rafle du Veldiv, qu'il avait ouvert les camps de Pithiviers, de Drancy, etc., n'ont pas pu accepter cette décision de justice. Est-ce qu'il faut parler de justice à ce moment-là encore ?
Oui, parce qu'au fond, il y avait également des problèmes juridiques très importants. L'autorité de la chose jugée, vous venez de le rappeler, également des problèmes de prescription, et puis bien sûr sur l'attitude du président Mitterrand qui, au nom de la paix civile, ne voulait pas, n'a pas en quelque sorte permis d'accélérer les choses, et on pouvait avoir le sentiment de l'autre côté qu'on ne voulait pas voir venir ce procès en cour d'assises, c'est très clair.
Margot Agnès, je vous ai vu réagir en réécoutant cette partie de l'interview de Christian Didier là, qu'on vient de diffuser.
Oui, je voulais juste réagir par rapport au témoignage, parce qu'il y a eu une quarantaine de témoins, je crois, pendant le procès. Donc il y avait des résistants, des rescapés, comme on l'a vu, mais il y avait avait aussi des proches de Christian Didier, donc il y avait un comité de soutien qui avait été créé, mmh. et il y avait notamment le maire de Saint-Dié, Christian Pierret, qui avait déposé à la barre pendant le procès.
La municipalité avait demandé l'indulgence
voilà,
du tribunal.
Voilà, c'est ça, ils avaient adopté une motion en conseil municipal. Et le maire avait témoigné et ils avaient la ville de Saint-Dié avait joué sur le fait que la ville avait été complètement traumatisée par la guerre, détruite à plus de 80% par les dynamitages, les incendies allemands.
Et il y avait un vrai traumatisme dans la mémoire collective de la ville parce que c'est vrai qu'il est né en 44.
Donc il n'a pas vécu la guerre, mais il a grandi dans ce champ de ruines. En fait.
Alors un mot encore, Philippe Bilger, maintenant sur votre réquisitoire et la condamnation effective.
Écoutez, le procès.
Vous avez eu un cas de conscience ou pas, vous allez, on peut en parler maintenant avec le recul.
Non. Alors le cas de conscience qui doit habiter un avocat général dans chaque affaire.
Je veux dire, demander 25 ans parce qu'il y a meurtre c'est plus compliqué que ça à juger, quoi.
De toute manière, juridiquement et judiciairement, l'assassinat était caractérisé. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur la constitution du crime. Donc la peine maximale, c'était la réclusion à perpétuité. Et j'ai eu tellement conscience des circonstances très particulières et de la victime, j'allais dire, et des motivations de Christian Didier, que finalement j'ai abouti à des réquisitions qui ont beaucoup descendu par rapport au maximum qui était de 10 à 12 ans.
Parce que vous pensiez que c'était l'expression on parle toujours de la balance de la justice.
Je ne pouvais pas complètement négliger les bonnes intentions de Christian Didier et le fait qu'il y avait eu probablement chez lui, comme chez d'autres, un très fort traumatisme à l'idée que René Bousquet était là et que peut-être son procès n'aurait jamais lieu. Donc 10 à 12 ans m'a semblé l'équilibre entre la nécessité de sanctionner un assassinat et en même temps de tenir compte de la personnalité très singulière et des motivations honorables de Christian Didier.
Alors on va faire une nouvelle pause dans cette émission. Vous pouvez toujours nous appeler bien sûr au 3210 ou nous faire parvenir des courriels sur rtl.fr pour des questions, des réactions, des témoignages à propos de cette affaire dont on parle aujourd'hui.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Nous revenons sur l'assassinat de René Bousquet en juin 1993 par Christian Didier, qui a été condamné, on le disait tout à l'heure, à 10 ans de prison, de réclusion à l'issue du procès, sur lequel nous allons revenir dans un instant avec Philippe Bilger. Et on va entendre auparavant un nouveau document à RTL qui date du 13 novembre 1995. Je pense, Christian Didier, donc condamné par la cour d'assises de Paris. Sur RTL, on entendait les explications autour de ce verdict, les explications de Jean-Claude Larivoire qui suivait le procès pour RTL.
De toute évidence, la question posée par l'avocat de la partie civile, maître Jacques Chanson, et l'avocat général, Philippe Bilger, a pesé lourd dans l'appréciation de la peine. D'accord pour la large atténuation de responsabilité compte tenu de son état mental, mais cet homme reste-t-il dangereux ? Je préfère ne pas répondre, mais j'ai peur, a dit maître Chanson. Même inquiétude pour le représentant du ministère public. Quant aux experts psychiatres, ils ont été, comme toujours en pareil cas, parfaitement évasifs. Reste l'ultime promesse de Christian Didier, mais c'était avant la décision du jury. L'horreur du crime, a-t-il dit, m'a vacciné à tout jamais. Reste aussi à espérer qu'une illumination subite, comme celle dont il a entretenu la cour d'assises à plusieurs reprises, ne le fasse pas un jour changer d'avis lorsqu'il sortira de prison après 2 ans et demi compte tenu des remises de peine.
Alors, Philippe Bilger.
En fait, à moins que je commette une erreur, je ne crois pas avoir jamais manifesté une inquiétude pour la suite, si vous voulez. Il était un petit peu illuminé, je le disais tout à l'heure, une certaine confusion dans l'aspiration, mais je ne pensais pas que Christian Didier, au sortir de prison, allait de nouveau s'abandonner à de tels actes.
Mais pour vous, cet homme n'était pas fou, hein, disons-le, parce que quand on a parlé avec Margot Agnès, c'est quelque chose qui a l'air qu'il touche beaucoup quand les gens disent mais c'est un fou, c'est un acte de fou.
Oui,
pas du tout, hein, il refuse totalement.
Il a d'ailleurs porté plainte récemment, l'été dernier,
contre l'auteur de livres. Voilà.
Il n'était pas fou, il avait une forme d'exaltation, une manière de parler, une sorte d'excitation permanente, parfois un délire verbal, une incohérence intellectuelle, mais mon Dieu, il est poussé au paroxysme. Mais si on considérait que c'était là la folie, je crois que certains pourraient être qualifiés de la même manière de fous.
Oui, d'accord. Après ce verdict, donc, qui vous a paru, vous avez été suivi, quoi, finalement, par les jurés.
Et je trouvais le verdict très cohérent, si vous voulez.
Est-ce qu'on a dit qu'il y avait eu des pressions? Parce que là, dans les réactions d'auditeurs qui sont arrivées au 3210, on dit, mais est-ce que la justice, on peut dire que la justice a vraiment été indépendante dans le rendu de cette décision particulière sur cet événement particulier?
Alors, je peux rassurer vos auditeurs. D'abord, en plus de 20 ans de cour d'assises, je n'ai jamais subi la moindre pression de la part d'une quelconque hiérarchie, même si parfois elle donnait des conseils que je n'étais pas obligé de suivre. Et pardon de tomber dans une forme de narcissisme personnel, moi-même, je ne les aurais pas supportés, ces injonctions. Objectivement, la cour d'assises, pour moi, a été un lieu magique et terrible, précisément parce qu'une absolue liberté judiciaire pouvait s'y déployer.
Alors, certains, à l'époque, ont dit, mais en fait, Christian Didier, en tuant René Bousquet, il a un peu tiré contre les gens qui, eux, souhaitaient qu'il y ait enfin ce procès pour crime contre l'humanité. Ces gens disaient, Christian Didier nous a volé le procès qu'on pouvait d'ailleurs qualifier de procès du siècle.
Il est clair que Christian Didier, par son acte criminel, a confisqué la possibilité d'un procès. Pour dire tout de même quelque chose à décharge, le fait de penser comme lui, comme quelques autres, que jamais le procès n'aurait lieu, n'était pas complètement une absurdité. Voilà. Autrement dit, il y avait une sorte d'oscillation entre la volonté humaniste d'un procès contre René Bousquet et un contexte politique dans lequel le président Mitterrand a joué un grand rôle, mais qui, à mon sens, n'aurait pas pu interdire jusqu'au bout la tenue d'un procès.
Il y avait beaucoup de public dans ce procès, parce qu'on dit toujours que quelquefois ça ressemble à des...
Oui,
à
mais des, là, c'est, à des premières ça restait de très normal, très très normal. Enfin, il y avait du monde, mais vous voyez, rien de comparable à certains autres
procès. À certains autres grands procès. Alors, on va faire une pause dans l'émission, et ensuite, on va retrouver Christian Didier à travers les propos qu'il a tenus au micro de Margot Agnès il y a quelques jours.
Et l'heure du crime sur RTL.
Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Bilger, qui fut avocat général de ce procès de 1995, le procès donc de l'assassinat de René Bousquet par Christian Didier. On écoute également le reportage et les propos donc qu'il a confié au micro de Margot Agnès. Je vais revenir à vous dans un petit instant, Philippe Bilger, mais d'abord, je voudrais qu'on écoute un passage qui nous a un peu étonné d'ailleurs à la réécoute, parce que il s'est vraiment livré à vous, hein, il vous a parlé sans sans langue de bois, de façon très sincère, et en même temps on sent dans tout ce document une gêne sur quelque chose qui s'est passé, une faille dans son enfance sur laquelle, vous allez l'entendre, il reste extrêmement discret. Écoutez.
Quand j'avais 7 ans, il m'est arrivé un truc terrible. Et cette chose a fait que s'est développé en moi un instinct de mort excessivement aigu. On a tous un instinct de mort, un instinct de vie, mais dans la plupart des individus, l'instinct de vie est suffisamment fort pour créer une barrière à l'instinct de mort, aux pulsions du subconscient, de l'inconscient. Moi, j'avais ces feux qui font rage au-dedans de moi. J'avais ces démons intérieurs. Toute mon enfance, toute mon adolescence, à la suite de cette chose que je ne dirai pas précisément. Ça avait pris une ampleur énorme. En plus, putain de bordel de merde, je le dis ça. Je suis né dans une putain de famille de merde où j'étais un rebelle, j'étais pas comme tout le monde, partout où je passais, rebelle, pas comme tout le monde, il écoute pas, il est, hein, il peut pas se fixer son attention sur l'école, il est toujours ailleurs, J'étais un mouton à cinq pattes. J'étais devenu un petit canard. Et mes parents, qui étaient dans le commerce, ils ne pensaient tout. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens tout, putain de merde, qu'est-ce que j'en ai branlé de ces cons de gens? Toujours l'environnement, les gens, nanana. Et alors, on finissait par me haïr. Si j'avais connu de l'amour autour de moi, peut-être que ça aurait apaisé cette chose. Mais dans un milieu de merde comme ça, paix à leur âme, ça ne fait que décupler cette chose, ce processus. Alors j'avais trouvé des solutions, parce que je suis quand même pas un mec velléitaire, hein. J'avais quand même ça, j'avais une force de caractère, malgré toutes ces saloperies qui tournoyaient comme des chauves-souris autour de moi. J'avais trois trucs. J'étais passionné de lecture. Alors ça m'aidait, parce que la culture, la connaissance, ça permet un échappatoire. Ça permet de recharger les batteries psychiques et de lutter contre ces pulsions de mort. J'avais le sexe. J'étais passionné du sexe des femmes. J'ai calculé à peu près 150 relations sexuelles avec des femmes différentes. Et puis ensuite, il y avait l'action. Cette phrase de Malraux, qui est une phrase clé dans ma vie, qui dit « L'action, geste de domination et de liberté face au danger à la mort. » Domination déjà des forces obscures de l'individu. Domination des pulsions, domination du côté négatif. Puis j'avais toujours ce mysticisme, je vais l'oublier, c'est quand même. J'avais toujours ce mysticisme depuis l'enfance. Je suis né dans une famille chrétienne. Dieu constituait pour moi une force. C'était une force qui m'aidait à vivre beaucoup. Et même quand je suis devenu déiste, à un moment donné, je ne croyais plus aux dogmes de la religion chrétienne. Je n'allais plus à la messe. Je ne croyais plus au Christ, tout ça. Mais jamais j'ai été athée. J'ai jamais pu imaginer un instant que l'univers et l'être humain puisse être le fait du hasard et de la nécessité. Donc je me disais, il y avait un ordre intelligible qui était derrière, il y avait une cause des causes. Pour moi, je pense que c'était Dieu.
Et donc l'explication très personnelle, évidemment, de Christian Didier sur le fait que René Bousquet a été l'occasion de se décharger au sens propre du terme de ces fameuses pulsions de mort. Il en a parlé comme ça au procès ?
Non, mais je veux bien croire que l'analyse qu'il fait là, en des termes très brutaux, correspond sans doute à une part de sa personnalité. Et il est clair que les experts l'ont confirmé, il y a quelque chose de narcissique, d'histrionique, peut-être d'un peu suicidaire, avec une volonté d'être une sorte de justicier admiré par tous. Et je le trouve un peu injuste, bien sûr, à l'égard de son milieu et notamment de sa mère, avec laquelle j'ai eu la chance de parler après le procès, juste après.
Elle a assisté au procès.
Absolument,
évidemment.
Elle était présente. C'était une femme adorable qui essayait de comprendre, qui manifestement lui a apporté un soutien, une affection dont je pense aujourd'hui ne mesure pas assez le prix. Voilà.
Oui, mais évidemment, lorsque je pensais en vous écoutant, mais qu'on dit les psychiatres, par exemple. Alors, attention, c'est pas parce que quelqu'un est fou ou pas fou, mais il y a toujours systématiquement dans un procès d'assises, on commet des experts.
Alors, aussi bien pour la psychiatre psychologie ou psychologue. Que pour l'état mental.
Alors voilà, c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez un peu de ce qu'ils disent ?
C'est ce que je viens de dire. Au fond, ils ont évidemment conclu tous à une personnalité qui était peut-être borderline, mais qui n'était pas irresponsable. Et ils ont mis en évidence les facettes histrioniques, narcissiques, justifiées, un petit peu compulsifs. Peut-être quelque chose, en effet, j'y reviens, d'obscurément suicidaire, en même temps qu'il veut s'en prendre aux êtres qu'il déteste pour la bonne cause. Eh bien, il y a peut-être, qui sait, une sorte d'envie d'être pris, de mourir dans l'instant même où il accomplit le bien.
Mais je cherchais depuis le début d'ailleurs de l'émission quel autre exemple on peut avoir qui soit vraiment comparable à ce dont on parle, parce qu'il y a eu des assassinats de chefs d'État ou d'hommes politiques dirigés par la vengeance ou la haine, mais de gens qui étaient vraiment partie prenante. Là, on est devant quelque chose qui est extraordinaire, c'est que en tout cas Christian Didier, je me tourne vers Margot Agnès, disons-le, il n'est pas juif. Il n'a pas, dans la mémoire familiale, n'a pas perdu l'ensemble de sa famille pendant la guerre. Il va petit à petit avoir une véritable fixation sur cette période de l'historique. Vous en avez parlé hors micro ou non, bah, où il reste discret?
Non, il y a aussi quelque chose de plus général, c'est que lui, son but dans la vie, c'est de lutter contre le mal sous toutes ses formes. Mmh. Et il s'est pris de, pas de passion, mais bon, il s'est intéressé à cette période de l'histoire, effectivement. Et on revient sur toute... alors, il n'a pas vécu ça personnellement, ni dans sa famille, mais oui, il y a quand même toujours eu ses parents qui ont vécu cette période, oui, leurs voisins, leurs proches, etc., qui ont été touchés. Oui. Et lui en a fait sa cause, quoi.
Voilà, et donc, il est devenu, finalement, absolument, un justicier, quoi.
Mais il y a les deux, comme toujours, le mélange de gloire personnelle et, en même temps, de vraie conscience, tout de même, du malheur, comme vous le dites très bien, et de ce qu'il convient d'éradiquer. Le problème, c'est que c'est lui qui s'estime juge de tout. Et au fond, d'une certaine manière, contre l'état de droit et ses forces.
Je m'aperçois, Philippe Bilger, on n'a pas dit un mot de la famille de René Bousquet. Elle était représentée au cours de ce procès.
Alors, je n'ai véritablement... Il y avait un certain nombre de personnes, 10-15, avec lesquelles je n'ai pas pu parler autant qu'avec la mère après le verdict. Deux ou trois comprenaient mal le verdict. J'avais beau tenter de l'expliquer, puisque les avocats ne l'avaient pas fait, n'était pas là, mais avec la mère j'ai eu vraiment un échange quasiment d'une heure, et j'ai trouvé en face de moi une femme adorable, compréhensive, qui exprimait évidemment une sorte de d'aigreur, mais très aimable devant ce qu'elle estimait une sanction trop lourde, mais à l'écoute et comprenant bien son fils, bref, un bel échantillon d'humanité.
Oui. Et vous, ce sera madame question, quand on est acteur d'un procès comme celui-là, on est aussi dans un milieu, on connaît d'autres avocats généraux, des magistrats, des avocats, on vous en a beaucoup parlé après non, le procès
Non, j'en ai surtout moi-même parlé à chaque fois que j'avais l'occasion,
et
qu'on me demandait, au fond, vous savez, la question traditionnelle sur les procès qui ont marqué, il est évident que celui-là, pour mille raisons, m'avait marqué, je dirais peut-être pas de manière prioritaire absolument, mais tout de même, il était très riche.
Et vous le mettez dans le top 5,
ah,
si
oui,
j'ose dire.
Oui, grâce à, seulement à la qualité de la présidence, à cet accusé singulier, à la qualité de la défense et au contexte à la fois historique et criminel qui est très rarement réuni.
Je vous remercie beaucoup, Philippe Bilger. Merci infiniment d'être revenu sur ce procès vraiment pas comme les autres. Merci Margot Agnès de ce reportage et de cet entretien avec donc Christian Didier. L'émission est pratiquement terminée. J'ai quelques secondes pour vous dire que si vous l'avez prise en cours et si vous vous dites « Ah là là, quel dommage, j'aimerais bien la réécouter », parce que c'est totalement possible, c'est très simple. Surtout, vous allez sur rtl.fr, vous laissez guider à la page de l'heure du crime, et à la page de l'heure du crime, vous trouverez toutes les indications pour pouvoir réentendre ou enregistrer, c'est-à-dire podcaster l'émission. Voilà, donc rtl.fr, n'oubliez pas. Dans un instant, on va retrouver, bien entendu, notre amie Flavie Flamand.
RTL, toujours.